Vous êtes un voleur, un lâche, un homme sans foi. Il n'y a rien pour vous de sacré. Vous vendriez votre père. Tenez, monsieur, vous n'êtes que de la merde dans un bas de soie. Napoléon à Talleyrand, le 29 janvier 1809. Mille ans d'histoire. L'un sur les champs de bataille, l'autre sur des tables de négociation, pendant 10 ans, Napoléon et Talleyrand ont bouleversé l'histoire et les frontières de l'Europe. À la fois différents et complémentaires, les deux hommes ne s'aimaient pas, mais ils avaient besoin l'un de l'autre. Napoléon de Talleyrand, qui lui a ouvert les portes du pouvoir, et Talleyrand de Napoléon, dont il a entrevu le destin dès leur première rencontre. C'était le 6 décembre 1797. Talleyrand recevait chez lui rue du Bac un général de 29 ans qui venait de se couvrir de gloire en Italie. Il s'appelait Bonaparte et n'était pas impressionné par celui qui était alors ministre des Relations extérieures du Directoire.
Comment dois-je vous appeler ? Monseigneur, parce que vous avez été évêque d'Autun ? Excellence, parce que Danton vous avait fait son ambassadeur en Angleterre ou... Monsieur le ministre, puisque vous dirigez les relations extérieures de la France.
La plupart des gens m'appellent Talleyrand. Juste Talleyrand. J'ai entendu dire que vous aviez un projet de nouvelle constitution. Êtes-vous intéressé par le pouvoir politique?
Moi? Non, la gloire que j'ai acquise en Italie suffit à me combler. Non, non, en ce qui me concerne, j'ai d'autres projets. Et je ne rêve que de revenir à mes premiers amours.
Aux mathématiques?
Oui, oui, j'espère être élu membre de l'Institut.
Et c'est tout?
Pour le moment.
À vos modestes ambitions. Santé.
Emmanuel de Varesquiel, bonjour.
Bonjour.
Alors, dans les mémoires de Talleyrand que vous avez préfacées et qui viennent d'être publiées dans la collection bouquins, Talleyrand évoque justement cette première entrevue qu'il a eue avec Bonaparte, une entrevue décisive, dites-vous, entre deux hommes qui pendant 10 ans allaient jouer un rôle essentiel dans l'histoire de l'Europe, l'un à la tête d'un empire, l'autre dirigeant sa politique étrangère, mais en 1797, quand ils se rencontrent pour la première fois, le plus important des deux, c'est Talleyrand.
Oui et non. Il ne faut pas oublier quand même que Bonaparte, la gloire de Bonaparte est déjà cristallisée à cette époque-là. Il revient de ses 2 années de campagne en Italie. Il a chaussé ses bottes d'Italie avec ses victoires extraordinaires. Il le signataire tout de même, on l'appelait le général négociateur ou le général pacificateur. D'ailleurs, c'est Talleyrand qui lui donnait de ces qualificatifs-là parce que Talleyrand était un extraordinaire flatteur. Il est le signataire de la paix de Campo Formio avec les Autrichiens, qui est la première grande paix acquise par la République. Et il signe en dehors du ministère parisien et en dehors des directeurs, puisqu'on est à l'époque sous le régime du directoire avec Barras au cœur de ce directoriat parisien.
Il est très donc populaire, c'est... aussi. Hein. Il y a eu Arcole, il y a eu Novi, il y a eu Rivoli, il y a eu Lodi. Donc c'est effectivement, il s'est couvert de gloire en Italie.
C'est un homme qui est probablement un peu moins jeunet que ne le représente l'acteur et le dialogue que vous avez passé tout à l'heure. Il n'empêche tout de même que c'est un homme de 29 ans, comme vous l'avez dit très justement, que Talleyrand en a 44 et que Talleyrand, lui aussi, a une réputation extraordinaire, une réputation d'ailleurs doublé d'une légende noire qui le précède un peu partout et qui vient du fait qu'avant même la Révolution française, il a été aux affaires comme agent général du clergé, qu'il a eu un rôle extrêmement important à partir de 1789.
Il était évêque, il faut le rappeler.
Il a été évêque d'Autun, ce qui ne l'a pas empêché de se marier avec une protestante divorcée qui était une pétroleuse d'enfer et qui s'appelait Catherine Grand.
Et d'être aussi pour la République et de faire voter pendant la Révolution la nationalisation des biens du clergé. Enfin bref, effectivement, d'où sa réputation sulfureuse.
Et puis une réputation également, évidemment, de diplomate et de négociateur, puisqu'il est envoyé, avant même que la République ne soit proclamée, en Angleterre pour obtenir la neutralité anglaise, alors même que la République s'arme contre les puissances du Nord et en particulier contre l'Autriche.
Qu'est-ce que les deux hommes attendent l'un de l'autre? D'une part, justement, Talleyrand vient à peine d'être nommé ministre des Relations extérieures, on disait ça comme ça pour ministre des Affaires étrangères à l'époque. Oui. Qu'est-ce qu'il pouvait attendre de Napoléon et qu'est-ce que Napoléon pouvait attendre de Talleyrand ?
Une complicité politique et une complémentarité par rapport à une remise en ordre du pays après les bouleversements révolutionnaires qui durent quand même presque depuis 10 ans, 1789-1799. Ce sont deux hommes qui, malgré tout, sont extrêmement différents l'un de l'autre. Talleyrand est issu d'un milieu de cour d'Ancien Régime, un grand aristocrate, un très grand seigneur de l'œil de bœuf, en perruque poudrée et bas de soie. Napoléon, qui est encore Bonaparte, même s'il invoque ses origines nobles corses. Et il y a d'ailleurs un dialogue très savoureux là-dessus, le jour de leur première entrevue, le 6 décembre 1997, est tout de même un parvenu de la Révolution, dans un certain sens, et il a ce côté parvenu. Il suffit d'observer les scintillements de la cour impériale quand elle existera à partir de 1804-1805. Donc ils sont très très différents par leurs origines sociales. Ils sont également très différents par leur tempérament et par leur caractère. Bonaparte est quelqu'un d'extrêmement cassant. C'est un homme de l'action et uniquement de l'action, alors que Talleyrand est l'homme de la temporisation. Il a cette phrase merveilleuse à propos de Bonaparte. Il dit, au moment de sa disgrâce, Bonaparte a été perdu le jour où il a fait un quart d'heure plus tôt ce qu'il aurait dû faire un quart d'heure plus tard. Et cet homme de la temporisation a joué un rôle extrêmement important, encore une fois, dans la remise en ordre diplomatique et de politique intérieure de la France sous le consulat.
Alors, en tout cas, justement, on n'y est pas encore au consulat. Nous sommes encore sous le directoire en 1797. Après leur première rencontre, Bonaparte part en Égypte. Il va y rester 2 ans. Il revient au mois d'août 1799. On est à la veille du fameux coup d'État qui allait faire de Bonaparte un premier consul. Un coup d'État dans lequel Talleyrand a joué un rôle considérable. Peut-être flairait-il déjà le premier consul, l'empereur qu'il deviendra plus tard de Napoléon. En tout cas, il l'aide beaucoup dans ce coup d'État qui a renversé le directoire.
Oui, nous avons toujours tendance a posteriori à penser que les choses sont évidentes parce qu'elles ont eu lieu. En réalité, Talleyrand avait probablement plusieurs cartes en main, plusieurs grands sabres qui devaient remettre de l'ordre dans la boutique, si j'ose dire. Ce grand sabre appelé par l'abbé Sieyès, qui joue un rôle capital dans ce coup d'État de Brumaire en 8. Bonaparte en est un. L'expédition d'Égypte, par exemple, aurait pu mal tourner, donc il y avait d'autres possibilités. N'oublions pas que ces deux hommes conspirent à deux reprises. Il y a un premier coup d'État qui est un coup d'État sous le directoire auquel Bonaparte participe d'Italie et auquel Talleyrand participe, et puis ce grand coup d'État de Brumaire en 8 où les deux hommes jouent les conspirateurs. Il y a une scène merveilleuse qui est racontée par Talleyrand dans ses mémoires où ils se trouvent rue de la Victoire chez Bonaparte et puis ils sont en train de préparer le projet, ils entendent du bruit dans la rue et ils sont sur le point de déguerpir comme des lapins et il s'avère que c'est la voiture des Jeux qui rentre tard le soir dans la rue de la Victoire et que ce n'est pas la police. Mais il craignait infiniment la police de Fouché en particulier, car Fouché n'était pas dans la confidence du coup d'État de Brumaire un mois avant le coup d'État.
Alors ce coup d'État des 18 et 19 Brumaire, en le 19, a donc lieu. Bonaparte devient premier consul et bien entendu, il garde auprès de lui celui avec lequel il avait comploté.
J'ai pensé qu'un aristocrate, un vrai, sachant manier l'insolence avec l'élégance d'un prince pourrait redorer notre blason. Alors vous étiez le ministre des Relations extérieures du directoire, le premier consul vous reconduit dans vos fonctions.
Je suppose que je devrais me sentir flatté quand vous faites allusion à mon élégance de prince, mais juste nettement préféré que vous eussiez fait allusion à mes talents de négociateur.
Négocier quoi? L'Autriche a repris et occupé l'Italie pendant que j'étais en Égypte, il n'y a rien de négociable là-dedans.
Bien, ou nous acceptons la perte de l'Italie, ou...
Ou nous faisons la guerre à l'Autriche, c'est ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous connaissez à la guerre? Serait-ce ma gloire que vous enviez? Mais vous la partagerez si vous m'êtes loyal.
Monsieur, je ne veux servir que vous seul. Ne vous fiez à rien. Et surtout à personne.
Je ne veux servir que vous seul, c'est ce qu'aurait dit Talleyrand, devenu ou redevenu ministre des Affaires étrangères, cette fois-ci du consulat, c'est-à-dire de Bonaparte. Talleyrand qui écrit dans ses mémoires « J'aimais Napoléon, je m'étais attaché même à sa personne malgré ses défauts. À son début, je m'étais senti entraîné vers lui par cet attrait irrésistible qu'un grand génie porte en lui. J'aimais Napoléon. » Est-ce que c'est vrai? Ça, c'est ce que dit Talleyrand parlant de cette époque où...
Oui, il écrit ça.
Consulat.
Il écrit ça sous la Restauration et il recompose évidemment ses rapports avec Bonaparte puis avec Napoléon. En réalité, il lui accorde un petit crédit dans ses mémoires. C'est cette phrase que vous avez citée. Puis il y a aussi cette autre phrase que j'aime beaucoup. 20 batailles gagnées vont si bien à la jeunesse qu'il aurait prononcé le jour de leur première rencontre en décembre 97. Mais quand on lit attentivement le portrait filé que fait Talleyrand de Napoléon dans ses mémoires, c'est un portrait extrêmement sévère et extrêmement cruel, où littéralement Talleyrand traite quasiment Napoléon de fou. Mmh. Et il insiste sur certaines scènes, par exemple des scènes d'épilepsie de Napoléon en 1805 à Strasbourg, quelques mois avant, quelques semaines avant Austerlitz, au moment de cette fameuse extraordinaire campagne de Bohême. Il insiste aussi sur Napoléon apprenant par cœur ses dialogues lorsqu'il va rencontrer par exemple Goethe à Erfurt en 1807. Il insiste sur Napoléon cruel et égoïste à l'égard de ses plus fidèles maréchaux.
En tout cas,
c'est dans les mémoires aussi.
Pendant 8 ans, il va servir sa politique étrangère, la politique étrangère d'abord du premier consul Bonaparte, puis de l'empereur Napoléon. Et alors, il va le servir sous le consulat en signant la très importante paix d'Amiens, même si elle n'a pas duré longtemps, en 1802, le concordat avec le Vatican. C'est extraordinaire quand même que cet ancien évêque défroqué depuis ait pu signer ce traité avec le pape.
Oui, en réalité, il négocie deux concordats. Un concordat personnel, ouais. Il a quand même été mis au banc de l'Église, étant donné son attitude politique vis-à-vis de l'Église sous la Révolution et ensuite son mariage. Et le concordat, celui qu'on connaît, qu'il négocie, mais il n'est pas le seul, pour le compte du consulat, avec Rome en 1801-1802.
Et aussi, alors, il va continuer de participer à l'ascension de Bonaparte, nous sommes sous le consulat encore, en participant notamment à une affaire qui a terni la réputation et de Napoléon et de Talleyrand, l'arrestation et l'exécution du duc d'Enghien en 1804, juste après l'arrestation d'un royaliste, Cadoudal, qui avait tenté d'assassiner le premier consul.
Le poseur de bombes a été guillotiné ce matin. Quant aux autres, ils ont été arrêtés et interrogés. Nous avons découvert que derrière l'attentat se tramait un complot, car après votre élimination, un prince de la maison de Bourbon devait prendre le pouvoir en France.
Quel prince? Le gros bonnet qui se fait appeler Louis XVIII, non?
Il faudrait plutôt imaginer quelqu'un d'un peu plus jeune, mais plus exalté, pour ne pas dire plus fou. Pourquoi pas le duc d'Enghien?
Le cousin de Louis XVI?
Il possède tous les critères et c'est un bonbon. J'ajouterais qu'il a émigré à Ettenheim, dans le duché de Bade. Ettenheim n'est qu'à quelques heures seulement de la frontière française.
Un enlèvement? Talleyrand?
Oui, citoyen premier consul.
Qui, à votre avis, est assez habile pour aller arrêter le duc d'Enghien et le ramener en France?
Que pensez-vous du marquis de Caulaincourt?
Et le duc d'Enghien sera arrêté à Ettenheim, c'est-à-dire dans un territoire étranger, ce qui a évidemment scandalisé toute l'Europe. Il sera exécuté dans les fossés de Vincennes le 21 mars 1804, c'est-à-dire juste avant la proclamation de l'Empire, que plus rien n'empêchait, et qui va faire, alors là, qui va permettre à Talleyrand d'avoir des titres ronflants. Non seulement il reste ministre des Affaires étrangères, mais aussi grand chambellan, grand électeur, prince, duc de Bénévent, c'est-à-dire d'un petit territoire qui se trouve dans le royaume de Naples, où il n'a jamais mis les pieds, mais enfin bon, il aimait ça, le luxe, les titres, tout ça.
Et vice-grand électeur de l'Empire en 1807, le seul vice qui lui manquait, disait Fouché, qui ne l'aimait pas.
Oui. Et alors justement, et bien aussi alors un homme extrêmement fortuné et qui profitait de sa position de chef de la diplomatie française pour faire ce que l'on appelait à l'époque des douceurs, pour obtenir ce qu'on appelait des douceurs diplomatiques, entre guillemets, autrement dit, il était corrompu.
Oui,
il s'est fait corrompre, en tout
oui,
cas,
oui,
il était
oui,
payé par le Tsar,
en
par
essayant de
d'Autriche.
Ne pas faire des anachronismes et en se restituant dans l'époque. Deux éléments. Le premier, Talleyrand est un très grand homme d'affaires. En 1799, on évoquait la question, il voulait avoir le ministère des Finances et pas le ministère des Relations Extérieures. Ça a toujours été un très très grand connaisseur en matière financière, y compris dans le domaine de la réorganisation des finances de l'État. Par exemple, c'est lui qui plaide pour le crédit public, pour la confiance par rapport au crédit, dès 1789. Deuxième élément extrêmement important, la culture du temps, et pensons aux grandes négociations diplomatiques comme celle, par exemple, de l'élection du roi de Pologne ou de l'élection de l'empereur d'Allemagne, la culture du temps veut que ce que vous appelez pudiquement, et ce qu'on appelait à l'époque pudiquement, les douceurs diplomatiques, fassent partie du jeu même de la négociation.
Ça veut dire qu'on demandait de l'argent, en fait, aux gens avec lesquels on négociait.
Absolument. Et la grande affaire sur ce plan-là de Talleyrand, ça a été la Confédération du Rhin et la négociation de la réorganisation de l'Allemagne en 1803, avec l'accord, évidemment, plus que l'accord de Bonaparte, où il a gagné beaucoup d'argent. Mais c'était convenu. Il y a un diplomate portugais qui dit « Tant qu'à faire, tout le monde donne de l'argent. Demande de l'argent, au moins Talleyrand est-il plus intelligent et plus visionnaire que les autres. Je préfère lui donner de l'argent à lui qu'à un autre. »
Disposant en tout cas d'une immense fortune, tout en conduisant justement les affaires étrangères de Napoléon, mais avec un point de vue assez différent de celui de l'empereur et qui s'est écarté très progressivement de celui de Napoléon, surtout lorsqu'en 1807, l'aggravation de la situation de l'armée française en Espagne obligeait Napoléon à vérifier à Erfurt la solidité de l'alliance qu'il avait conclue avec le tsar Alexandre de Russie.
Alexandre, puis-je vous présenter Monsieur de Talleyrand ?
Votre serviteur.
Je le connais bien, sire, et je suis persuadé que son sens de la mesure et la finesse de ses analyses nous aideront dans nos négociations.
Négocier ? Qui parle de négocier ? Vous et moi sommes par avance d'accord sur tout, n'est-ce pas ?
Si nous rejoignons Erfurt tous les deux, juste tous les deux.
Et avant de partir, je veux savoir si vous tiendrez la promesse que vous m'avez faite à Tilsit.
Je me souviens vous avoir proposé ma médiation par rapport à l'Angleterre, et je respecterai cet engagement.
Oui, mais concernant la Prusse et l'Autriche.
Je n'ai pas souvenir qu'il en ait été question.
Non, Alexandre. Pas à moi. Pas ça.
Eh bien, admettons que je m'en souvienne. Mais que, comme Monsieur de Talleyrand, j'en suis arrivé à la conclusion que l'équilibre des forces est le meilleur garant de la paix en Europe.
Mais je me fiche de ce que pense Talleyrand.
On ne gagne rien à faire une colère avec moi.
Et c'était l'entrevue d'Erfurt en 1808, j'ai dit 1807, m'avait repris pendant qu'on entendait cet extrait de film, entre Napoléon et le tsar Alexandre de Russie. Alors, une entrevue absolument extraordinaire, parce que Talleyrand est auprès de Napoléon pour négocier avec Alexandre, mais en douce, en fait, il encourage Alexandre de Russie, il a des contacts avec lui, en dehors de Napoléon, et il l'encourage à résister à Napoléon. Ça, c'est vraiment assez extraordinaire, on pourrait appeler ça une véritable trahison, mais vous rappelez qu'en fait, s'il trahit Napoléon, en réalité, il est très fidèle à une politique très différente de celle que souhaite Napoléon. C'est ce qu'on a entendu dans l'extrait de film, l'équilibre européen.
Oui, je ne peux pas m'empêcher quand même de citer cette phrase merveilleuse à propos de la trahison de Talleyrand à Alexandre Ier de Russie. « Mais enfin, il a trahi, disait Alexandre. Sire, la trahison est une question de date. » Alors c'est donc une question de date, Erfurt, en 1808, dans la mesure où Napoléon essaye de consolider son alliance de Tilsit avec Alexandre Ier. Et quel est le projet, le grand dessein de Napoléon? C'est au fond un partage de l'Europe entre les deux grandes puissances, la sienne et la grande puissance du Nord, de la Russie. Or, Talleyrand n'a jamais aimé la Russie, qu'il a toujours considéré comme un empire barbare. Il parle de la Russie comme d'une montagne de neige. Il a toujours considéré que la Russie présentait une menace face à l'équilibre européen, aux équilibres européens tels qu'il les pense et tels qu'il les voit, lui. Donc il veut empêcher cette consolidation de l'alliance entre Napoléon et Alexandre. Et qu'est-ce qu'il fait pour l'empêcher? Il fait peur à Alexandre. Il dit le soir à Alexandre le contraire de ce que Napoléon lui dit le matin. Et il fait tout pour mettre un coin et insinuer le doute dans l'esprit d'Alexandre, qui par ailleurs, d'ailleurs, se portait très bien, ce doute-là, sur la validité et la pertinence de cette alliance franco-russe. Et il va réussir si bien qu'il va faire entrer dans le jeu une troisième puissance qui est l'Autriche, d'où la campagne d'Autriche, la bataille de Wagram en 1809, et petit à petit, très rapidement, à partir de 1810, pour des raisons aussi commerciales qui tiennent à l'Angleterre et aux relations commerciales entre la Russie et l'Angleterre au blocus continental, la Russie ne tiendra pas dans cette alliance franco-russe et on va aboutir à la campagne de Russie en 1812.
Oui, mais alors là, il ne sera plus déjà... Il
n'est plus
l'écart.
Au pouvoir, mais il est encore au pouvoir.
En substance, au fond, Talleyrand, depuis le début, c'est quoi? C'est quelqu'un qui dit à Napoléon, je schématise, vous gagnez des batailles, bon, mais il faut absolument faire la paix. On l'appelait le prince de la paix aussi. Pourquoi? Et il disait à Napoléon, signez une paix définitive qui permette à la France de garder les acquis de la Révolution française, c'est-à-dire en substance les frontières naturelles, c'est-à-dire le Rhin, et n'en demandez pas plus, cessez de faire la guerre. D'une certaine manière, il avait assez raison.
Oui, le grand principe de Talleyrand, c'est qu'il faut commencer par améliorer chez soi ses propres institutions avant d'aller voir ce qui se passe chez les autres. Il l'écrit déjà à Danton en 1792, au moment où la République est prête à rentrer en guerre avec l'empereur d'Autriche. Donc ça, c'est une constante de l'esprit de Talleyrand. L'autre constante, c'est le fait de dire que lorsqu'on est en position de force, on n'humilie jamais son adversaire. Et ça, c'est un précepte diplomatique auquel on a pensé ces dernières années à propos de certaines grandes puissances actuelles. Or, c'est exactement ce que Napoléon ne fait pas. Troisième principe de Talleyrand, les équilibres européens. Or, c'est encore une fois ce que Napoléon ne respecte pas, puisque on est là en marche, une espèce de marche, en avant extrêmement dangereuse, vers ce qu'on a appelé le Grand Empire, avec ces monarchies satellites qui sont tenues par la famille, par les frères de Napoléon.
Autrement dit, les deux hommes ne sont plus du tout d'accord à ce moment-là. Dès 1807, Talleyrand démissionne de ses fonctions de ministre des Affaires étrangères. Oui. Il continue de correspondre, et même d'ailleurs avec l'empereur de Russie, entre autres, ce qui rend foudre Napoléon, qui, à l'occasion d'une célèbre entrevue, dit tout ce qu'il pense à Talleyrand de la façon dont il se conduit.
Restez debout, Talleyrand. Comme il sied un accusé devant son juge.
Accusé? Mon Dieu, sire. Moi? De quoi?
Quel a été le prix de votre trahison? On vous a payé cher.
Vous avez donc décidé de porter atteinte à mon honneur.
L'honneur? Vous? Vous n'en avez pas d'honneur. Vous êtes une canaille.
Je vous retire votre charge de grand chambellan. Et les 40 000 francs qui vont avec.
De la merde. Vous êtes de la merde dans un bas de soie.
Mon Dieu, quel dommage qu'un si grand homme soit aussi mal élevé.
Et c'est une scène parfaitement authentique qui s'est déroulée aux Tuileries le 29 janvier 1809. C'est assez étonnant, ça montre bien le caractère des deux hommes. En tout cas, Talleyrand, à ce moment-là, commence à être mis sur la touche.
Une petite précision, pas parce que Napoléon savait qu'il était en correspondance avec la cour d'Autriche et la cour de Russie, mais à cause des premières entrevues qu'il avait avec Fouché dans le dos de Napoléon, qui alors était en Espagne. Et ça, évidemment, cette association de Fouché et Talleyrand, qui par ailleurs ne s'aime pas, inquiétait vivement Napoléon. Alors cette scène est extraordinaire, c'est pas évidemment la première scène de colère à l'égard de Talleyrand, il y en a eu plusieurs autres avant, mais ce qui est extraordinaire, c'est que quand on la regarde et qu'on l'étudie, on s'aperçoit que Napoléon s'emporte de plus en plus. Pourquoi? Parce que Talleyrand a ceci d'extraordinaire, c'est qu'il est capable de rester totalement immobile, ce visage sans grimace ni sourire, disait Sainte-Beuve, face à l'injure, et qu'il est capable de recevoir l'injure de premier fouet sans littéralement scier. Donc il est quasiment sous la menace du poing de Napoléon dans cette scène des Tuileries qui a horrifié absolument toute la cour. Tout le monde en a entendu parler. Et il est capable, le lendemain, d'être à la cour, à la présentation de la cour du dimanche, comme si absolument rien ne s'était passé.
Alors il est mis à l'écart, il va rester 5 ans à l'écart, refusant d'ailleurs, même quand Napoléon va lui demander de redevenir ministre des Affaires étrangères, refusant de l'être. Mais alors c'est très mauvais pour Napoléon. D'abord il se passe de conseils qui étaient quand même assez précieux. D'autre part il le jette littéralement dans les bras d'un autre proscrit qui est Fouché, vous l'avez dit, l'ancien ministre de la police de Napoléon. Et tous les deux vont à partir de ce moment-là comploter pour ramener au pouvoir Louis XVIII, et comploter contre l'Empire, et puis ramener au pouvoir Louis XVIII, eux qui sont deux anciens révolutionnaires, dont l'un, Fouché, a même voté la mort de Louis XVIII, et ils vont ainsi comploter contre Napoléon. Là aussi,
vous savez ce que disait Talleyrand de Fouché? Un ministre de la police est quelqu'un qui s'occupe d'abord de ce qui le regarde et ensuite de ce qui ne le regarde pas. Ouais.
Alors il était au courant de tout et effectivement ce qui va se passer c'est qu'on va même voir Talleyrand donner des renseignements en 1814 au tsar de Russie. Il va même l'accueillir à Paris quand il va rentrer victorieux. Et puis après la chute de l'Empire, la deuxième chute après Waterloo en 1815, les deux hommes vont être nommés tous les deux ministres, hein, encore une fois chose extraordinaire, par Louis XVIII, ce qui avait d'ailleurs scandalisé Chateaubriand le jour où il les a vus entrer tous les deux dans le bureau de Louis XVIII.
Monsieur de Talleyrand Périgord, prince de Bénévent, demande à être reçu par sa majesté le roi.
Tout à coup, une porte s'ouvre. Entre silencieusement le vice appuyé sur le bras du crime. Monsieur de Talleyrand soutenu par Monsieur Fouché. La vision infernale passe lentement devant moi. Pénètre dans le cabinet du roi et disparaît. Fouché venait jurer foi et hommage à son seigneur. Le féal régicide, à genoux, mit les mains qui firent tomber la tête de Louis XVI entre les mains du frère du roi martyr. L'évêque apostat fut caution du serment. Chateaubriand. Mémoire d'outre-tombe. Le 7 juillet 1815, vers 11 heures du soir.
Alors ce passage de Chateaubriand est assez extraordinaire,
fantastique. Hein,
notamment à la fois sur Fouché, j'ai dit tout à l'heure qu'il avait voté la mort de Louis XVIII, dont il avait voté la mort de Louis XVI, mais le frère de Louis XVI, c'était Louis XVIII qui le nomme, hein, malgré tout, il est à la police, et Talleyrand. Et depuis cette époque, au fond, les deux hommes, et Talleyrand dont nous parlons aujourd'hui, ont une réputation absolument détestable.
La veille de recevoir Fouché comme ministre de la police et de recevoir son serment, il est avec Talleyrand et il lui dit ceci, Louis XVIII, « Ménagez-moi, prince, c'est mon dépucelage.
Oui. »
Mais alors, c'est une histoire absolument extraordinaire et pas nécessaire politiquement, dans la mesure où on s'est très très rapidement aperçu que Fouché avait inventé sa propre nécessité pour rentrer au ministère après le retour de Louis XVIII de Gand. Vous savez que c'est après Waterloo que cette scène se passe, à la fin des 100 jours et après la deuxième abdication de Napoléon, qui cette fois part définitivement, si j'ose dire, à Sainte-Hélène et non plus à l'île d'Elbe. La nécessité de Fouché comme ministre de la police, donc du frère du roi dont il a contribué à faire tomber la tête, est très discutable.
Est-ce qu'il a été un grand ministre? Revenons à Talleyrand. Est-ce qu'il était un grand ministre de Napoléon? En deux mots, parce qu'il nous resterait quelques secondes à peine.
Il a été un très grand ministre des Affaires étrangères tout court et un très grand homme d'État, dans la mesure où, si on peut lui faire le reproche d'être passé d'un régime à l'autre, il est resté toujours extrêmement fidèle à ses idées depuis 1789 jusqu'à sa mort et notamment à sa vision des rapports de la France et de l'Europe.
Merci Emmanuel de Varesquiel. Je rappelle que vous êtes l'auteur de la présentation de l'édition intégrale des mémoires et correspondances du prince de Talleyrand, au fond la politique étrangère de la France par celui qui l'a faite à cette époque, et qui vient de paraître aux éditions Robert Laffont Bouquin, et également l'auteur d'une biographie de Talleyrand qui vient d'être rééditée chez Fayard. Vous avez pu entendre des extraits des films Napoléon d'Yves Simoneau avec Christian Clavier dans le rôle titre et John Malkovich en celui de Talleyrand, publié en DVD chez France 2, et puis Le Souper d'Edouard Molinaro, tous deux disponibles en DVD aux éditions France Télévisions. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Sandrine Laurent et Philippe Duclos, documentation et archives sonores Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Oliva, une réalisation de Anne Kobilac.